Puissions-nous ouvrir l'évangile selon Matthieu, chapitre 8. Matthieu 8. Et verset 23. Et quand il... Le Seigneur Jésus fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent, et voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues, mais lui dormait. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ?» Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant, « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous avons chanté de notre Seigneur, son œuvre, sa sollicitude, son amour pour nous. Et c'est vrai, ce fait merveilleux et unique qu'il est mort pour nous à la croix, qui était devant nous ce matin, ici et à beaucoup d'autres endroits, où les siens lui ont donné cette adoration qu'il désire et qui désire le Père, dont seul il est digne. C'est là le fait central, on peut dire, de toute l'histoire du monde, n'est-ce pas? La croix du calvaire, c'est le point pivotant autour duquel toute l'histoire du monde, de ce monde dans lequel nous nous trouvons, qui prendra une fois sa fin. Tourne la croix du Seigneur Jésus. Et heureux celui-ci et celle-ci qui ont cru que cette œuvre accomplie par notre Sauveur et Seigneur à cette croix est aussi pour lui, pour elle. Parce qu'une fois, on pourrait dire, personne ne peut se passer du Jésus. Une fois, chaque genou se courbe, se pliera devant lui. Chaque genou, même de ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec lui maintenant, qui le nient. Une fois, tes genoux seront courbés devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce que le Seigneur a fait. C'est là l'œuvre unique et suprême, mais quand même, maintenant où il est au ciel, il n'est pas sans travail, pour ainsi dire. Il est là pour nous, jusqu'à ce que nous serons avec lui, il est là pour nous. Il est notre souverain sacrificateur qui opère auprès de Dieu, pour nous garder que nous ne branchions pas du chemin. On pourrait dire peut-être, mais si le Seigneur nous a complètement sauvés, pourquoi ce travail, cette œuvre, comme souverain sacrificateur? Mais imagine, souviens-toi de ton chemin, combien de fois tu étais en danger de brancher et qui t'a gardé? C'est le Seigneur, seulement. Seulement c'est le Seigneur, c'est sa grâce, n'est-ce pas? N'oublie jamais. Et quand on est tombé dans le péché, il est là aussi. Notre avocat auprès du Père, qui prend soin que nous ne restons pas dans la dans le puits, n'est-ce pas, dans le puits de la misère, mais que nous retournons. C'est lui qui nous rend, qui fait que nous retournions sur le chemin à la suite de notre Seigneur. Et il est aussi notre berger qui va devant nous en avant pour nous montrer les paysages, les bons pâturages dont nous avons besoin. Il nous accompagne. Il dit à la fin de cet évangile, au dernier verset, « Voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la complétion des âges, n'est-ce pas ?» Tous les jours, il est avec nous. Quelle grâce ! Et quand même, n'est-il pas danger qu'on l'oublie ? Qu'on oublie que le Seigneur est auprès de nous pendant notre marche quotidienne, dans notre travail, dans nos hauteurs et dans nos situations très basses, dans la maladie, dans la misère, il est toujours là. Voici, je serai avec vous tous les jours. C'est une promesse sans condition, inconditionnelle. C'est merveilleux. Et nous l'oublions parfois. Et dans ce passage, bien connu même par les enfants dans l'école de dimanche, c'est une illustration de ce fait que le Seigneur est toujours avec nous. Et c'est merveilleux. On ne peut pas assez rendre grâce pour ce fait, qu'il est avec moi, avec toi, avec nous tous, dans toutes les situations de notre vie. Invisible, mais il est là. Et dans ce cas-là, il était là visiblement. Et quand même, les disciples avaient leurs doutes. On pourrait dire, dans ce passage, quand on regarde un peu en arrière, le verset 20, où le Seigneur disait, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'était la pauvreté dont parle de Corinthiens 8, n'est-ce pas, qui était riche, dans la place suprême, au-dessus tout, comme créateur, comme Dieu, le Seigneur éternel, riche, sur ces richesses surpassent notre imagination, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre les richesses, le pouvoir de Dieu. Et ces richesses, le Seigneur a renoncé. Il est devenu pauvre, tellement pauvre qu'il n'avait même pas un lit où il pouvait un lit qu'il était son propre lit où il pouvait reposer la nuit. Il n'avait pas une maison et même pas un lit. Quel peau, quel amour, quel c'est inexprimable, n'est-ce pas? Cet amour du Dieu tout-puissant de pouvoir et de devoir dire le Fils de l'homme n'a pas une place où mettre sa tête. Ici, il fait appel aux disciples de croiser la mer de la Tibériade, ce lac au milieu de à la frontière plutôt d'Israël, qui est traversée par le Jourdain. C'est un lac 20 km de longueur, quelques kilomètres de largeur, mais un lac très dangereux. Il est entouré de montagnes, de collines, dans lesquelles, c'est dans un chaudron, n'est-ce pas, où ils peuvent se former des vents, des tempêtes très soudaines, et il tourmente ils font des tourments dans cette mer, dans ce lac. C'est un lac. Mais les disciples, presque la moitié des disciples, étaient des pêcheurs qui connaissaient par leur profession ce lac et toutes ses qualités, ses spécialités. Le Seigneur les avait appelés pour faire des pêcheurs d'hommes, de pierres spécialement. Quand il fut monté dans la nacelle, le petit bateau, les disciples le suivirent. Ça, c'est ce qu'on fait comme disciples, n'est-ce pas? Ne jamais aller en avant du Seigneur, mais de le suivre. Ça, c'est l'explication du mot disciple, n'est-ce pas? Suivre le Seigneur, apprendre de lui. Et c'est intéressant qu'au début du christianisme, dans les actes, non seulement dans les évangiles, où les disciples étaient vraiment ceux qui suivaient le Seigneur vivant sur la terre, mais aussi dans les premiers chapitres du livre des actes, les chrétiens sont appelés les disciples. Après, nous avons les épîtres de Paul, où il est toujours les saints et les saints en Christ, sanctifiés en Christ, les saints, les frères et sœurs. Et maintenant, cette désignation disciple s'est plus ou moins perdue, n'est-ce pas? On ne dit pas est-ce que c'est un disciple du Seigneur, mais c'est une belle expression, n'est-ce pas? Une expression caractéristique. Et peut-être c'est ça la raison qui nous empêche d'utiliser cette expression, parce que être chrétien ne dit rien concernant le caractère personnel. Il est chrétien, c'est-à-dire il a cru, et aujourd'hui, chrétien, c'est une étiquette que beaucoup, beaucoup de gens portent qui n'ont pas cru même au Seigneur. Donc on dit, c'est un croyant. Mais un disciple, c'est autre chose. C'est un croyant, oui. Mais un disciple est un croyant qui visiblement suit le Seigneur Jésus, qui va dans les traces du Seigneur. Et ça va beaucoup plus loin que d'être un croyant, n'est-ce pas? Le croyant parle de la grâce du Seigneur, de la grâce de Dieu. Nous avons été acceptés par la grâce. Et par grâce, nous avons pu croire au Seigneur Jésus. Mais être un disciple veut dire que j'ai à cœur et que je l'accomplis de suivre le Seigneur. Et c'est un appel à nous tous, n'est-il pas? D'être un disciple du Seigneur. Et ici, on voit, le Seigneur va dans le bateau, petit bateau, et les disciples suivent. Ce n'est pas eux qui choisissent le bateau. Ce n'est pas que les spécialistes qui disent, mais Seigneur, ça c'est le meilleur bateau, comme nous, souvent, pensons de pouvoir faire. Montrer au Seigneur ce qu'il a à faire. Seigneur, si tu veux, tu me commandes de marcher sur les ondes, n'est-ce pas? Quelques chapitres plus tard, chapitre 14, Pierre le dit au Seigneur. Il dit au Seigneur ce que le Seigneur a à faire. Est-ce qu'on peut faire ça? Dans sa grâce. Dans sa grâce infinie, le Seigneur répond à cette commande du disciple, à son maître. Quelle ignorance et quel manque d'intelligence spirituelle nous avons souvent, n'est-ce pas? Mais ici, on voit la juste manière. C'est le Seigneur qui va dans le bateau. Et ce sont les disciples qui suivent. Et chers amis, c'est une leçon pour moi, pour nous tous, je crois, de chercher à suivre le Seigneur et de ne pas aller un chemin que nous avons choisi et prier au Seigneur, bénis ce chemin. Un vrai disciple, là où je suis, mon disciple sera aussi. Et ça, c'est le chemin de la paix. Combien de fois nous n'avons pas la paix de Christ, la paix de Dieu dans nos cœurs? Et c'est parce qu'on ne sait pas où on en est. On ne sait pas quel est le juste chemin. Mais si je ne le sais pas, je n'avance pas. Ça, c'est la simple chose, n'est-ce pas? dans le monde, c'est toujours avancer, 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 n'est-ce pas? Même si on fait dans les affaires, on nous a appris, même vous, si vous faites une faute, c'est mieux de faire une faute qu'on peut corriger de ne faire rien, que de ne faire rien. Mais ce n'est pas spirituel. Hein. Dans le monde, peut-être, ça peut passer, mais pas dans la vie chrétienne. Et quand même, combien de fois on le fait? Le Seigneur va dans le bateau et les disciples le suivent. Et c'était on dirait des spécialistes, n'est-ce pas? C'était des pêcheurs qui connaissaient les bateaux et tout ce qui y appartient, et connaissaient la mer, ce lac de Tibériade. Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et maintenant, immédiatement, voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par des vagues, mais lui dormait. Dans un certain sens, on pourrait dire, et c'est bien connu probablement aussi, que ce bateau dans lequel le Seigneur entre et où les disciples le suivent est une illustration de notre vie, le bateau de notre vie. Mais c'est important que le Seigneur y entre le premier. Et que nous lui suivions. Et ce n'est pas que nous choisissons le bateau et prions au Seigneur, accompagne-nous, n'est-ce pas? C'est lui qui entre. Il est dans le bateau. Et les disciples y sont aussi. Quel heureux sentiment! Quel bonheur de savoir le Seigneur est avec moi, avec nous dans le mariage, n'est-ce pas? Avec nous en famille, avec nous même dans le travail, avec nous dans le même bateau. Et on dirait déjà en avance qu'un bateau au bord duquel le Seigneur se trouve ne peut jamais s'enfoncer, jamais se noyer. Impossible. Mais est-ce qu'on s'en rend compte toujours, n'est-ce pas? Les disciples l'auraient pu savoir. Mais c'est d'abord la bénédiction d'avoir le Seigneur dans notre bateau, dans le bateau de notre vie, et de nous rendre compte que c'est lui qui est le capitaine, et pas moi. Mais quel bonheur, quelle bénédiction de le savoir et de vivre avec le Seigneur dans cette situation. J'applique ça, naturellement, vous comprenez, comme une illustration. Ce n'est pas seulement un événement, un incident de l'histoire du Seigneur Jésus sur la terre, mais aussi une illustration pour nous aujourd'hui, parce que c'est la parole de Dieu, où tout incident a une voie, une leçon pour nous. Et maintenant, dans ce bateau sur le lac de Génézareth, lac de la Tibériade, la tempête vient, très souvent. On en a vu ça en 10 minutes, deux ou trois fois. En 10 minutes, 5 minutes, la mer est plate comme un miroir, et en 5 à 10 minutes, n'est-ce pas, les vagues sont comme ça. Plancher. Ce sont des vents qui, et les bateaux à cette époque-là n'étaient pas tellement grands, n'est-ce pas? C'était des bateaux pour 12, 13, 15 personnes, pêcheurs, n'est-ce pas? Et c'était pas grand-chose. Pas de deck, qu'est-ce qu'on dit, de couverture, n'est-ce pas? C'était ouvert. Et le lot, il passait. Et ici, nous voyons que la tempête vient. Et cette tempête, qui a passé une vie jusqu'ici sans aucune tempête, personne probablement, hein, ou certainement, les tempêtes viennent. Et c'est ici, dans un autre incident, il dit que les disciples ramaient, c'est la juste expression, ramer, ils s'efforçaient de travailler contre la tapette. Parce qu'ils étaient des spécialistes, ils se connaissaient. Ils connaissaient leur profession, ils connaissaient le lac. Ils avaient eu des expériences maintes fois, on a toujours passé. Mais pas cette fois. Et ils essaient probablement ce qu'ils peuvent, de leur propre force, sans se rendre compte que le Seigneur est à bord. Il est au même bateau. Et combien de fois on a réalisé ça après un certain temps, n'est-ce pas, qu'il y avait des difficultés dans la vie, profession, famille, santé. On a pensé, je dois faire ça et ça et ça et ça, et j'arriverai. Mais les choses ne se déroulaient pas comme on le voulait et comme on avait plané, n'est-ce pas? Mais on n'a pas pensé au fait que le Seigneur est là. Peut-être ils ont pensé, mais il dort. Il dort. Sans se souvenir que dans leur Bible, la Bible de l'Ancien Testament, il est dit, je crois que c'est dans le psaume 121, c'était la Bible des Juifs, des disciples. Psaume 121, verset 4, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. » Il savait ce qui était le Seigneur, et quand même, dans la pratique, il leur manquait la foi pratique. C'est une chose de croire au Seigneur Jésus comme mon Sauveur, et de connaître le pardon des péchés. Mais c'est une autre chose de marcher par sa main, chaque jour. De faire les expériences dans la vie quotidienne avec le Seigneur. Je suis avec vous. Il a dit. Et il était avec eux. Il était là. Mais il disait, mais il dort, on ne veut pas se soucier de l'éveiller. On essayera nous-mêmes. Est-ce que c'était juste pour les disciples? Ils ne l'étaient pas. Ce n'était pas juste d'essayer soi-même autant qu'on y arrive, n'est-ce pas? Et seulement dans la plus grande détresse de se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est ce que ces disciples ont fait. Et c'était faux. Ce n'est pas selon la volonté, les désirs du Seigneur. Il ne veut pas nous laisser travailler jusqu'à ce que nous avons besoin de dire « je ne peux plus ». Mais il désire que nous prenons sa main et ne la relâchons jamais, dès le commencement, et que nous ne la relâchons jamais. C'est le désir. Et il se réjouit quand nous le faisons. Et non pas pour le prendre comme un sauveur, une aide dans la plus grande détresse. Il est avec nous. Et il veut nous aider. Et il seul peut nous aider. Et le Seigneur dormait. Comme Dieu, psaume 121, verset 4, il ne dort jamais. Il ne peut dormir comme Dieu. Mais il est devenu homme. Nous avons parlé de ses richesses et sa pauvreté. Ici, nous trouvons le Seigneur dormait. Pendant une tempête qui était tellement terrible que les disciples, ces spécialistes avec beaucoup d'expérience, étaient remplis d'angoisse, de peur, ces hommes. Et ils dormaient. Ils n'ont pas réalisé il est tellement fatigué qu'il pouvait dormir dans cette tempête. Il devait le réveiller au milieu de cette tempête. Tellement fatigué était le Seigneur qu'il dormait sans être éveillé par la tempête qui portait les disciples au bord de la désespoir, du désespoir. On pourrait dire, mais comment est-ce possible? Il était Dieu, c'est vrai. Mais n'oublions jamais, c'est la deuxième leçon de ce passage, n'est-ce pas? La première est la sollicitude du Seigneur et sa présence avec nous. Mais la deuxième, ou peut-être l'inverse, la première leçon, c'est la parfaite humanité du Seigneur, sans qu'il cesse jamais d'être Dieu. Et je dis, chers amis, aussi spécialement aux jeunes, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une juste représentation, une juste image de ces deux natures de notre Seigneur, qui sont absolument importantes, absolument indispensables pour le comprendre comme notre Sauveur? Il était et il est Dieu invisible, un esprit. Dieu n'a pas de forme. Il est un esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Il est invisible. Personne ne peut jamais voir Dieu. Mais le Seigneur est devenu l'image du Dieu invisible. 1 Colossiens 1, verset 15, et aussi en 1 ou 2 Timothée. Dieu est invisible. Et quand le Seigneur est devenu homme, il a pris la forme d'un homme. C'était l'abaissement du Dieu suprême de se mettre sur le niveau de ses créatures. Il n'est pas devenu une créature. Mais il a pris la place d'une créature. Il est toujours resté demeuré Dieu. Et il a pris la place de la créature, non sous cet aspect que beaucoup de chrétiens pensent qu'extérieurement il est devenu homme, mais intérieurement c'était Dieu. C'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Il est devenu homme extérieurement et intérieurement. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme est décrit en 1 Thessaloniciens 5, comme ayant esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'homme est décrit comme ayant esprit et âme et corps. Ça, c'est l'homme. Esprit, âme et corps. Et le Seigneur avait un corps humain. Et un corps avec toutes les faiblesses qui y sont liées. Notre corps a besoin de la nourriture. Le Seigneur en avait besoin. Parce qu'il est dit au désert, au début, dans la tentation au désert, qu'il avait faim. Il était homme. Son corps avait besoin. Au puits de Jacob, en Jean 4, il était là parce qu'il était fatigué. Il s'asseyait parce qu'il était fatigué. Excusez l'expression, mais je dis ça pour être explicite, pour ne pas laisser des doutes. Il n'était pas un superman, superhomme. Un homme avec toutes les forces, n'est-ce pas? Mais seulement la forme était humaine. Son corps était un corps humain, avec la faiblesse, la nécessité de se nourrir, avoir de la nourriture et boire, donnez-moi à boire, n'est-ce pas? Même à la croix, jusqu'à la croix. Il était fatigué, c'était son corps. C'était l'abaissement du Seigneur, qu'il était dépendant de la nourriture et du sommeil. Et ici, on voit, il était tellement fatigué qu'il s'était endormi et ne ressentit pas ce qui se passait autour de lui. Les disciples devaient l'éveiller. « Seigneur, ne te soucies-tu pas de notre misère ?» Mais il avait aussi une âme. À Gethsémané, dans la profonde douleur, dans la prévue du calvaire, mon âme est troublée. Mon âme. Le Seigneur connaissait les troubles dans son âme. Pas normalement, parce qu'il était toujours en communion avec son Père. Il avait toujours cette paix de Christ. Ma paix, je vous donne cette paix par laquelle il avait traversé tout son chemin. Mais à Gethsémané, il était troublé dans son âme. Et au tombeau de Lazare, en Jean 11, n'est-ce pas, il est dit qu'il est troublé dans son esprit. Cela nous montre que le Seigneur possédait un esprit humain qui pouvait être troublé. Est-ce que vous pensez que l'esprit de Dieu peut être troublé? Que Dieu, bienheureux Dieu, éternellement bienheureux, peut être troublé dans son âme, dans son esprit? Non. Mais comment le Seigneur l'était? Et c'est très important de le tenir ferme, que le Seigneur était vraiment homme, sauf une chose, excepté le péché. Ça nous est montré en Hébreux 4, parce que c'est toujours bon de se rappeler les passages, et on peut avoir cette représentation du Seigneur seulement en lisant l'Écriture, n'est-ce pas? On trouve ça dans l'Écriture, et par là, on peut dire, c'est notre Seigneur qui était devenu vraiment homme. Donc, de tous ces aspects, seulement, Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Le péché n'est pas en lui, il ne connaît pas le péché, il n'a pas commis le péché. » Trois apôtres, Jean, Pierre et Paul, parlent de cette pureté immaculeuse, immaculée du Seigneur. Pas de péché. Autrement, il n'aurait pas pu devenir notre sauveur. Un agneau qui n'était pas pur ne pouvait pas être sacrifié. Et un sauveur qui avait des péchés aurait besoin de sauveur lui-même. Il n'aurait pas pu devenir notre sauveur quand il avait besoin d'un sauveur lui-même, n'est-ce pas? Il était homme parfait et aussi homme complet dans le sens que rien de l'humanité ne lui manquait, sauf le péché. Mais le péché n'est pas un... Aujourd'hui, le péché est une caractéristique de l'humanité, mais pas originalement, et pas dans l'éternité. Et dans tout ça, ici, on voit la faiblesse de la fatigue du Seigneur. C'était vraiment la fatigue, ce n'était pas une façade théâtralique. Je le dis, pour vous, moi, il ne jouait pas d'être fatigué. Il était. Et les disciples devaient le réveiller. Et en même temps, cette faiblesse, le Seigneur, dans toute sa faiblesse, couché dans ce bateau. Et les disciples, dans leur détresse, se tourne vers lui maintenant, seulement maintenant, malheureusement, et disent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Ah, quel manque de foi, quelle faible foi. Ils sont ensemble dans le même bateau avec le Seigneur et ils disent, ils s'écrient, sauve-nous, nous périssons. Et même les petits, les jeunes enfants, je vous pose une question maintenant. Est-ce qu'un bateau dans lequel se trouve le Seigneur Jésus peut s'enfoncer et se noyer? C'est possible? Est-ce que le Seigneur peut se noyer? Non. Et ces pêcheurs, pêcheurs expérimentés, ne se souvenaient pas de ce fait. Nous périssons. Mais le Seigneur fait maintenant une chose qui nous montre qu'il était non seulement homme, mais qu'il était Dieu. Il y a très peu de passages dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on doit dire, où cette humanité parfaite et complète, et par cela je veux dire qu'il n'y manquait rien, même dans les faiblesses, et la déité du Seigneur Jésus sont si proches, unies, à distinguer, mais pas à séparer. Il se lève, et celui qui se lève, je le dis pour être très clair, est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Celui, c'est la même personne, celui qui est couché, c'est l'homme Christ Jésus dans tout son abaissement. Et celui qui se lève est la même personne, mais qui dit des choses que personne, jamais un homme a pu exprimer. Il dit, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Il parle au vent et il parle à la mer. Tu peux le faire, tu peux essayer. Rien ne se passe. Rien. Tu peux t'écrier. Tu peux commander. Rien ne se passe. Le vent continue à souffler et la mer continue à se bouger. Rien ne se passe. Et le Seigneur se lève et dit dans un autre évangile, « Tais-toi. » Et la mer et le vent se taisent. Là, nous avons le Dieu Tout-Puissant, sous la forme d'un homme qui était justement endormi dans toute sa faiblesse. C'est notre Seigneur, c'est mon Seigneur. Et dans les circonstances où nous nous trouvons, chers amis, n'oublions jamais que le Seigneur a d'un côté toute compréhension pour nous, toute miséricorde pour nous. Mais en même temps, c'est lui qui est le Tout-Puissant qui peut faire des choses que personne sur cette terre ne peut faire. Tais-toi. Il devenait un grand calme. Il se fit un grand calme. Même normalement, quand le vent se tait, le vent cesse à souffler, ça dure des heures, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la surface de l'eau se calme. Mais ici, merveilleusement, par une acte de Dieu divine, le vent se tait et la mer devient comme un miroir. Ça, c'est le pouvoir divin. Et c'est notre Seigneur. Quel beau tableau, n'est-ce pas? Quel beau introspection ça nous donne dans le caractère de notre Seigneur. Il était parfaitement, je le répète, homme. Et il ne cessait jamais d'être Dieu, comme on le voit ici, n'est-ce pas? Cette même personne qui est là couchée peut commander au vent et à la mer. Et on comprend bien qu'à la fin, les disciples, il est dit, au verset 27, « Et les gens s'en étonnèrent, disaient. » Les gens, qui étaient ces gens? Qui étaient ces gens? c'était nul autre que les disciples, parce qu'ils étaient au milieu de la mer. Il n'y avait pas d'autres gens que les disciples. Et quand même, la parole ne dit pas les disciples. Et pourquoi ? Pour mettre en relief, en distinction, la déité du Seigneur Jésus et l'humanité de ses disciples, les gens. Les gens sont les disciples. Pour montrer la faiblesse des hommes et pour mettre en relief le pouvoir, la toute-puissance du Seigneur. Ils s'étonnent. Nous n'avons pas besoin de nous étonner. Et parfois, c'est parce que nous connaissons le Seigneur. Et parfois, nous connaissons, nous tous, que nous étonnons de la manière de laquelle le Seigneur nous a aidés. Et il est toujours là. Et quand nous allons à la maison, chers amis, dans nos circonstances, nous pouvons continuer avec notre Seigneur, celui qui était dans le bateau avec ses disciples et qui semble ne pas s'apercevoir des difficultés qu'ils avaient. Mais il connaissait tout. Et quand même, il était en faiblesse là pour nous montrer qu'il est entré dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous pouvons trouver et de l'autre côté, qu'il possède tout le pouvoir aussi aujourd'hui pour nous aider et pour nous guider et pour nous diriger et pour être celui que nous suivons, comme nous avons vu au début de ce petit incident. Il allait dans le bateau et les disciples le suivaient.
Chapitre 4, à partir du verset 6. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Je désire lire le paragraphe suivant de ce qui a été lu dans Matthieu. Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques sortirent des sépulcres, vinrent à sa rencontre, et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu, es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le priaient, disant, « Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Et eux sortant s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux, et voici tout le troupeau des pourceaux se rua du côté de la côte dans la mer et moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et s'en étant allés dans la ville, ils racontèrent tout, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici toute la ville sortit au devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Le premier récit avec les vents et la mer, on parle de ces circonstances extérieures et puis de choses qui, disons, à la fois ça peut être très grand et très violent. Il y a des tempêtes, des ouragans qui peuvent tout détruire. Mais disons que si on peut s'exprimer ainsi, c'est neutre moralement. Il n'y a pas le vent n'a pas d'animosité particulière ni de volonté particulière. Il y avait certainement l'action de Satan était là derrière pour pousser le vent et pour pousser la mer et même les circonstances extérieures, matérielles, physiques peuvent être animées par Satan. Alors, dans le second récit, le problème est différent, c'est deux démoniaques. Alors, le problème des démoniaques, dans un sens, et certains diront dans nos pays en Europe, il n'y en a plus. Peut-être sous la ou exceptionnellement, mais enfin disons en principe, il n'y en a plus sous la forme telle violente, précise, telle qu'on les voit, Mais il reste des actions de l'ennemi dans des individus. Et alors c'est différent parce que on commence à voir une volonté avec des sentiments, des intentions spirituelles précises. Et alors là, il peut y en avoir. Il y en a d'autant plus que, rappelons-nous que Satan est le chef de l'autorité de l'air. Expression donc, que nous trouvons au début des Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Il est le chef de l'autorité de l'air, c'est-à-dire qu'il y a des, sommes environnés par des puissances spirituelles, c'est aussi l'épître aux Éphésiens qui en parle, et des puissances qui, effectivement, animent en particulier les hommes, les idées, et nous sommes dans un temps où l'apostasie augmente, se développe à une vitesse extraordinaire, apostasie non seulement dans, je parle pas spécialement des églises, mais nous étions dans un monde chrétien et tout ce qui est de Dieu est mis de côté, non seulement délaissé, mais intentionnellement et volontairement supprimé, en sorte qu'on a véritablement cette, on voit en action ce chef de l'autorité de l'air qui manipule des hommes. Et alors on voit le Seigneur, et là il peut s'agir d'actions très, très violentes. Bon, il y a la violence, bien sûr, là il s'agissait d'une violence physique. Dans les autres évangiles, on voit qu'il cassait tout, les fers, les liens, et tous les gens qui venaient à leur rencontre. Mais l'action d'apostasie, l'action spirituelle peut effectivement être extrêmement violente. Alors voilà le Seigneur qui vient. Et il vient et le Seigneur est capable. Il est en mesure de non seulement de calmer le vent et la mer, mais même les gens animés, le pire possible par l'action spirituelle du chef de l'autorité de l'air, voilà qu'ils sont calmés. Alors on sait que il y a deux démoniaques ici, c'est Matthieu, les autres évangiles, il n'y a qu'un démoniaque. On sait que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. L'évangile de Matthieu, qui est adressé aux Juifs, donne d'une manière fréquente deux témoins. Il y a deux aveugles, deux démoniaques, deux témoignages qu'on l'accuse de Belzébul, etc. Mais s'il y avait apparemment principalement l'un des deux démoniaques. Mais enfin, qu'il y en ait un ou deux, c'est, le problème est le même. Alors, on voit donc les démons parlent au Seigneur. Ils prient, ils disent: Seigneur, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Déjà, la phrase est assez frappante parce que on voit que derrière ces hommes, en réalité, c'est justement les démons, l'action de Satan. Et puis leur problème de ces démons, c'est pas du tout de s'occuper des hommes eux-mêmes. Leur problème, c'est est-ce qu'ils vont eux, les démons, aller dans l'abîme, c'est-à-dire en enfer. Le Seigneur leur dit: allez. Alors il y a ce miracle qui paraît étrange pour certains, que le Seigneur autorise ces gens à aller dans des pourceaux. La question est à plusieurs aspects, parce que les pourceaux des porcs, c'était donc dans le pays des Juifs, c'était une source de souillure positive et directe et contraire à la parole. Et voilà que... Alors, ils vont dans les pourceaux, et les pourceaux sont détruits. Alors, d'un côté, on dit, ben, c'est très bien, puisque là, cette source de souillure est supprimée. D'un autre côté, en fait, même dans cette affaire-là, Satan, le chef de l'autorité de l'air, se sert de cette affaire-là pour faire un désastre économique qui fait que les gens se dressent contre le Seigneur Jésus. De fait est que les deux hommes ont été détruits, ont été délivrés de leurs démons et d'une délivrance extraordinaire. Et alors c'est quelque chose qui frappe et qui saisit, dans la mesure où on voit que non seulement il y a ces vents, la mer, des circonstances extérieures qui paraissent moralement neutres, mais on a toute cette action positive de l'ennemi que le Seigneur peut, qui n'est rien pour le Seigneur. Le Seigneur évacue cela sans problème, sans difficulté. Et son cœur et son désir est pour le bien de ces hommes-là. Alors d'un côté, au niveau global de la région, on pourrait dire, ben, il n'y a eu que deux personnes sauvées, c'est pas grand-chose qui s'est passé. Et puis les gens diront, mais alors le grand problème, c'est la destruction économique de la région, puisque tous les pourceaux sont là, et un troupeau immense, et les ressources sont parties. Et alors les gens se prient Jésus de se retirer de leur territoire. Alors, disons, c'est instructif, parce qu'on voit, on vient de lire ces versets de Philippiens. Ne vous faites pas de soucis en toute chose, présentez vos requêtes. Bon, c'est vrai. Mais alors, le souci et les sujets d'inquiétude, c'est quoi? Le sujet et les soucis d'inquiétude, est-ce que c'était les deux démoniaques, c'est-à-dire des démons qui ont pris possession d'hommes, qui les égarent, qui, avec toute la méchanceté spirituelle, et puis qui, au-delà de ces hommes, il y avait ces démons qui avaient leurs intentions pour rester là, ou bien est-ce que le sujet de soucis et d'inquiétude, c'est la catastrophe économique due aux pourceaux? Alors, on voit ces choses sont donc instructives pour nous faire peser, mais qu'est-ce qui est important? Où c'est qu'on veut des délivrances? Même ce verset de Philippiens, je réinsiste, présentez vos requêtes. Alors oui, présentez vos requêtes, mais on va demander quoi? On va demander quoi et qu'est-ce qui est le bien, le positif que nous désirons? Est-ce que c'est deux hommes délivrés et qui vont au pied du Seigneur et qui vont le louer? Ou bien est-ce que c'est la réussite économique de la région dans laquelle pour laquelle le travail spirituel du Seigneur n'a pas contribué. Et quand je dis encore n'a pas contribué en apparence et en premier stade, dans la mesure où les pourceaux ont été détruits, mais que les Juifs eux-mêmes avaient été fidèles et s'étaient débarrassés des pourceaux par eux-mêmes et non pas par les démons, et que s'ils avaient suivi les instructions de l'Ancien Testament, il y avait des bénédictions matérielles qui étaient aussi prévues par la parole. Mais on voit, au fond, c'est dans toutes ces choses, ça nous fait... Je dirais, ça nous interpelle, comme on dit, et nous dit vraiment, mais quel est le bien que nous cherchons? Où est l'avantage spirituel et la bénédiction que nous cherchons? Est-ce que c'est celle selon la parole, qui d'ailleurs là aurait consisté à se débarrasser des pourceaux et à vivre selon les instructions même de la loi? Est-ce que c'est le bien de ces âmes qui est sous l'emprise du chef de l'autorité de l'air, et c'est une délivrance spirituelle dont ils ont besoin, ou bien est-ce que c'est le mouvement de foule général qui dit « mais le christianisme ne contribue pas à l'édification de la société, donc il faut s'en débarrasser, et on prie Jésus de se retirer du territoire ». Alors retenons ceci au fond que il est tellement important de rechercher ce qui a de l'importance, ce qui est selon le Seigneur, ce qui a la vraie valeur et des choses qu'on pèse au pied du Seigneur dans la prière, dans la supplication, dans la crainte de Dieu, et ne nous laissons pas emporter non seulement par les mouvements de foule, mais par cette autorité de l'air, ces idées qui courent partout et qui nous détournent de la parole.